Bonjour Monsieur Marchand,
Bonjour.
merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau pour cette interview suite à votre nomination. D'ailleurs, je vous félicite pour le cours de rhétorique. Je vous laisse vous présenter.
Oui, alors je m'appelle Sylvain Marchand. C'est pas vraiment une nomination puisque j'étais déjà professeur ici et c'est simplement un nouveau cours qui va rentrer dans mon cahier des charges. La faculté s'est un petit peu réorganisée après le départ du professeur Aubert.
Ok, merci, très bien. Alors, j'aurais d'abord toute une série de questions pour vous sur le cours de rhétorique. La première qui nous vient, c'est est-ce que vous pouvez brièvement présenter votre parcours et ce qui vous a mené, en mettant en valeur bien sûr quelques aspects de votre parcours, qui vous a mené vers le cours de rhétorique?
Écoutez, ça fait 50 ans que j'argumente de façon fantaisiste et improvisée. Je me suis dit que je pouvais peut-être réfléchir à la façon dont j'argumente. Et mon expérience me montrait que la meilleure façon d'apprendre et de réfléchir à une question, c'est de l'enseigner. Par conséquent, je me suis dit qu'en enseignant la rhétorique, j'allais peut-être enfin comprendre quelles étaient les bonnes méthodes d'argumentation et quelles étaient les mauvaises que je n'utiliserais plus. Voilà, c'est ce qui m'a amené mon parcours. Bon, vous le connaissez un tout petit peu. Je suis professeur ici ordinaire à la faculté de droit. J'ai aussi des activités accessoires comme conseiller dans une étude, ce qui fait que j'ai cette possibilité d'argumenter. Avant de venir à Genève, j'étais à l'université de Neuchâtel où j'enseignais le droit des poursuites. J'ai toujours dit que le droit des poursuites et le droit des contrats sont en étroite relation, et par conséquent, ça me paraît assez cohérent comme parcours. Et puis voilà, qu'est-ce qui m'a amené par ailleurs à la rhétorique, j'ai pas une maturité suisse, j'ai un baccalauréat français. On faisait de la rhétorique en France à l'époque et j'ai gardé quelques bons souvenirs de ces cours, mis à part quelques aspects un peu jargonesques du cours qui sont assez inévitables dans ces cours de rhétorique, mais j'ai néanmoins gardé un bon souvenir de ce cours qui m'a peut-être été utile sans que je me rende vraiment compte durant ma carrière.
Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, le cours de rhétorique jusqu'ici a été enseigné par Monsieur Aubert sous la forme d'analyse de texte, de phrases et puis de préparation de discours. C'est une forme avec trois volets qu'il a toujours gardé. Souhaitez-vous une rupture de ce format ou quant à la méthodologie ou voulez rester? S'il y a une rupture, pourquoi? Comment? Quelle est votre idée?
Écoutez, ce n'est ni une rupture ni une continuation. En fait, je ne connais pas le cours du professeur Aubert, donc je reprendrai peut-être certains éléments de façon fortuite, mais mon idée n'est pas du tout de reprendre la même structure en tant que telle. Cela dit, ce que vous avez dit me paraît assez logique. Je pense effectivement que dans le cadre d'un cours de rhétorique, il faut de temps en temps se pencher sur un texte, qu'il y ait une approche théorique qui est nécessaire aussi, parce que c'est comme toute une tradition, la rhétorique, et que cette tradition, me semble-t-il, doit aussi être enseignée. Mais je vis toujours au présent, donc ce cours de rhétorique s'inscrit encore dans l'avenir. Par conséquent, je ne peux pas vous dire exactement quel en sera le contenu. Mais vous verrez bien. Vous,
Non, moi
successeurs.
malheureusement, j'y suis déjà passé.
Malheureusement.
très bien, merci beaucoup. Alors, aussi, le cours de rhétorique a au sein de la faculté de droit une image symbolique, notamment celle de l'appris par cœur. Quelle place donnerez-vous à l'appris par cœur au sein de votre cours?
Aucune, parce que moi je n'apprends rien par cœur et je trouve qu'on est très mauvais lorsqu'on apprend par cœur. Alors je sais que le professeur Aubert n'était pas du tout de cet avis, et nous en avons discuté. Lui considère qu'en apprenant par cœur, on finit par intégrer totalement un texte et le restituer d'une bonne façon. Moi je préfère l'improvisation, j'ai toujours préféré l'improvisation. Et je trouve que les gens qui récitent un texte par cœur ne sont pas très convaincants, c'est l'impression que ça m'a toujours donné. Donc c'est une querelle d'école, on peut dire, mais moi je ne pense pas qu'apprendre par cœur soit une bonne technique rhétorique. En tout cas, je le déconseille parce qu'il n'y a rien de plus stressant que d'avoir appris un texte par cœur et de devoir le restituer au bon moment et devant les bonnes personnes. Au contraire, si on a juste une structure en tête, alors on est beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer et je pense qu'on est meilleur.
Très bien, merci beaucoup. Alors aussi, ce qui est très symbolique dans la faculté, au-delà du cours de rhétorique, c'est son fameux examen. Donc l'examen a une certaine forme que tous les étudiants, anciens étudiants connaissent bien. C'est d'abord une partie théorique où on doit analyser un texte. Ensuite, on avait un polycopier dans lequel on avait plus ou moins 5000 expressions à apprendre. On en recevait 10 à l'examen qu'on devait, enfin 10 mauvaises qu'on devait ensuite correctement restituer, et ensuite un discours qu'on avait toute l'année pour préparer. Quelle était votre idée, vous, par rapport à cet examen?
Alors, je connais la structure actuelle, parce que je vais m'occuper de l'examen du mois d'août et donc reprendre les étudiants du professeur Aubert pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, je vais évidemment suivre la structure qui était celle du professeur Aubert de façon à ne pas créer d'inégalité de traitement entre ceux qui ont passé leur examen en juin et ceux qui vont le passer en août, et aussi à reprendre ce qui a été présenté comme étant l'examen et par conséquent ce pourquoi les étudiants se sont préparés. Donc au mois d'août, ce sera exactement la même structure, et M. Witzig est le garant de cette continuité. Ensuite, je me sens relativement libre de faire autrement, notamment en ce qui concerne la stylistique qui m'attire moins, à vrai dire. Je n'étais pas totalement convaincu par toutes les erreurs pointées dans ce document. Bien sûr, le document est intéressant parce qu'il invite les étudiants à réfléchir à la possibilité d'enrichir leur vocabulaire et donc de ne pas toujours utiliser les mêmes termes un peu passe-partout, au contraire, choisir des termes plus pointus. En même temps, il y a un côté un peu sclérosant à avoir l'impression que tout ce qu'on dit est faux. Donc il faut faire aussi attention à cette idée qu'il y aurait des phrases justes et des phrases fausses. Il y a des fautes de grammaire, il y a des fautes de style clair. Mais ensuite, il y a aussi une certaine liberté, me semble-t-il, dans la façon de s'exprimer. Et c'est une liberté qui est appréciable et qu'il ne faut pas forcément tuer dans l'œuf. Donc je ne pense pas reprendre ces phrases de stylistique. Pour le reste, le discours qui est préparé, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, M. Witzig conserve ses séminaires et par conséquent, l'idée d'un discours préparé pendant l'année et ensuite présenté pendant l'examen est une bonne idée. Puis quelques questions sur le cours aussi, juste pour éviter que les étudiants ne viennent pas au cours et passent néanmoins l'examen. Donc voilà, je n'ai pas encore de politique totalement définie, mais les grandes lignes, c'est ça, certainement un discours, sans doute quelques questions sur le cours, et puis plus de phrases de stylistique.
Très bien, voilà qui est dit.
Sans engagement.
Sans engagement, on le note, sans engagement. Maintenant, une question un peu plus technique. Nous savons, enfin, jusqu'à maintenant, le cours de rhétorique a toujours été donné dans la salle d'Unibastion.
Oui.
Alors, j'aurais une double question par rapport à ça. La première, naturellement, est-ce que ce cours continuera là-bas? Et deuxièmement, qui est très lié, dans quelle mesure un professeur a-t-il le choix de ces salles?
Alors, le cours ne continuera pas là-bas parce que je ne reprends pas l'idée de faire un cours d'une heure et demie. Donc, je garde la structure classique de 2 fois 3 quarts d'heure. Donc on ne pouvait pas garder ce cours à l'Unibastion, qui n'était pas disponible pendant ces... Et puis en plus c'était à midi, donc je ne savais pas que c'était très pratique. À midi, je déjeune. Peut-être vous aussi. Donc ça aura lieu, l'horaire n'est pas encore tout à fait fixé, mais ça aura lieu le vendredi dans une salle à l'Unimail. Et pour votre deuxième question, les professeurs sont libres de choisir les salles... libres de choisir les salles où ils enseignent dans la mesure de leur disponibilité. Ce qui est une grande restriction, parce qu'évidemment, il y a peu de grands auditoires, et la plupart du temps, lorsqu'on veut changer de salle, on nous répond qu'il n'y a pas d'autres salles similaires disponibles, mais Mme Cotta, qui s'occupe de ça, est toujours pleine de bonne volonté et cherche toujours à nous satisfaire dans la mesure du possible. Alors, donc, nous aurons une salle à l'Unimail, et je crois que ce sera le vendredi, mais je ne peux pas encore vous dire exactement l'horaire. Je ne sais pas si ça a déjà été publié, en tout cas, moi, je reviens de vacances et je ne suis pas tout à fait sûr de ça.
Ah, ce sera à nous aussi de trouver les informations sur le site de l'université et on les mettra sûrement en ligne sur notre site internet. Alors, aussi, dernière question par rapport au cours de rhétorique. Quelques centaines d'élèves ont réussi leur première année et vont entamer cette deuxième année avec enthousiasme. Que recommandez-vous aux étudiants qui vont entamer ce semestre de rhétorique avec vous? Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Une envie. On n'a pas tellement besoin de plus pour se préparer à la rhétorique. Une envie et peut-être aussi la conscience du fait que l'argumentation, c'est quand même le moteur du droit, que le droit n'est rien d'autre en fait qu'une argumentation. Donc la rhétorique, je ne veux pas gonfler cette matière, ça n'a pas tellement de sens. En soi, toutes les matières sont intéressantes et toutes leurs matières ont leur importance. Mais néanmoins, derrière toutes les matières, il y a ensuite une pratique de la matière et cette pratique de la matière passe par une argumentation. C'est ce qui rend le droit intéressant. Le droit n'est pas intéressant si ce n'est qu'un mode d'emploi, donc l'argumentation c'est, me semble-t-il, vraiment le travail du juriste, et donc réfléchir sur cette argumentation, avoir les instruments de cette argumentation me semble être utile et nécessaire dans le cadre d'études de droit. C'est la raison pour laquelle j'espère que les étudiants auront en tout cas l'envie de participer à ce cours et peut-être se rendront compte de l'utilité de ces connaissances classiques qui ont été réunies depuis longtemps et qui prennent la forme de la rhétorique.
Très bien, voilà qui j'espère les motivera. Alors, nous avons terminé ce premier volet sur les questions sur le cours de rhétorique. Merci beaucoup. On va maintenant passer sur le volet associatif, conseil participatif, car nous vous l'informons ici, Monsieur Marchand est élu au conseil participatif ainsi que d'autres professeurs et quatre autres étudiants. Alors d'abord, on va poser une question qui est plus en rapport avec nous. Quel rapport avez-vous avec l'Association des étudiants en droit jusqu'à aujourd'hui? Quelles en étaient vos connaissances et vos contacts?
Aucun.
Aucun. Ah
Désolé.
ben, voilà qui résume bien la situation et qui a
Non,
encore
j'ai
beaucoup
validé,
de travail.
franchement, aucun.
Ok.
En réalité, aucun.
Ok, ben c'est bien. Voilà une très bonne première approche alors.
Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous m'avez demandé ce que j'attendais des étudiants. Alors, qu'est-ce que vous attendriez des professeurs en termes de relations avec l'Association des étudiants de droit? Enfin, une fois, j'ai été invité, quand même, j'exagère. Une fois, j'ai été invité à la soirée
Oui, l'année
de la
passée,
ville.
c'était nous.
Non, là, j'y suis pas allé.
Oui, l'année passée, c'était la soirée Gatsby,
Qui
c'est
n'a
ça?
pas été annulée, finalement?
Non.
Pourquoi j'y
Elle a
suis pas?
eu
Alors,
lieu.
j'ai pas été invité, alors.
D'ailleurs, Monsieur Sassoli était présent lors de cette soirée. Ouais.
Mais une fois, j'y suis allé, quand même. Mais ça
Ok.
fait longtemps, c'était à l'hôtel Kempinski, ça fait quelques années. J'ai même fait un petit discours, me semble-t-il.
Les
Ah,
fameux bals.
intéressant. On va pouvoir retrouver ça dans nos
Et donc,
archives si on cherche.
Mais sinon, qu'est-ce que vous attendez d'un professeur? Je pense que l'Association des étudiants en droit, ça concerne surtout les étudiants, me semble-t-il.
Voilà l'interviewé qui nous interviewe.
Non, mais vous
C'est.
posez la question, je n'ai aucun rapport particulier à part le fait d'avoir été invité une fois. Je ne pensais pas qu'il y avait des attentes particulières à l'égard des professeurs en ce qui concerne les activités de l'AED.
C'est vrai qu'il y a toujours eu un passé dans le milieu associatif où les associations ont toujours voulu rester très distincts
Oui,
du
c'est
monde
bien sûr,
académique
oui,
pour
c'est
avoir
bien
leur
sûr.
propre indépendance.
Oui, c'est bien sûr.
Mais nous, dans notre dynamique et dans ce qu'on voulait essayer de créer, on a remarqué qu'avoir le soutien des professeurs était vraiment
Ah, mais
nécessaire.
vous avez mon soutien.
Et merci bien, ça
Passif
fait
et
plaisir.
implicite.
Et du coup, par exemple, déjà, les professeurs, on les remercie ici, hein, sont les premiers à nous accueillir avec plaisir lorsqu'on fait des présentations au début de leur cours. Mais après, que les professeurs rendent ça plus amical de nous inviter, ou alors, lorsqu'ils présentent leur cours au début, faire mention que nous existons, si on, comme les assistants, l'association existe
Alors
aussi pour
écoutez,
vous aider,
je pense
ce
qu'il faut
genre
que
de
vous soyez,
choses.
il faut que vous soyez conscient que l'initiative doit venir de vous. Je ne parle pas que pour moi, je parle à mon avis de l'ensemble de mes collègues. La plupart de mes collègues accueilleront vos demandes très volontiers. Mais je pense que l'initiative doit venir de vous parce qu'on n'a pas tellement de raisons, dans le fond, de nous adresser à l'AED et de proposer des choses. Il faut que l'initiative vienne de l'association. Mais cela dit, si des initiatives viennent, comme celle d'aujourd'hui, par exemple, je suis sûr qu'elles seront accueillies favorablement.
Ah, mais cela ouvre un débat très intéressant, dans le sens où un étudiant, il n'est que pour 5 ans, voire un petit peu plus, de sa vie universitaire à l'université,
Oui.
alors qu'un professeur, d'habitude, reste quand même un peu plus de temps et a une vision plus reculée, plus globale et plus continue, ce
Il n'est
qui
pas forcément
permet de
également intervenant, mais
solidifier, l'association. Je ne sais
ouais.
pas ce que vous dire, mais après, ceci est un autre débat. Ah ben, on se recoupe. Quel est pour vous le rôle que doit avoir une association telle que la nôtre dans le parcours universitaire d'un étudiant?
Est-ce que vous êtes sûr de poser la question à la bonne personne? Moi, je ne suis pas membre de cette association, je ne suis plus étudiant depuis quand même quelques années, malheureusement. Alors les étudiants font ce qu'ils veulent. Est-ce que je vous demanderais est-ce que vous trouveriez légitime que je vous demande que doit faire une association de professeurs d'université? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, non, non, je
Vous pouvez
comprends
me
très bien.
répondre, bah, je peux vous donner ce que
Oui.
serait mon idée si j'étais étudiant en droit. J'aimerais bien que ce soit un peu festif, j'aimerais bien qu'on m'apporte aussi certains soutiens par rapport au cours. Je pense que c'est à peu près ce que vous faites. Mais est-ce que vous avez besoin d'un prof pour vous dire ça?
Non, non, mais c'est pour s'accorder une certaine légitimité
Ouais.
et aussi un certain,
Mais vous l'avez
enfin, se
pourquoi?
rassurer pour être, se
Vous avez
sentir utile au sein de cette faculté.
votre légitimité par vos membres.
C'est vrai, et on les remercie d'ailleurs de nous écouter. Quelle place laissez-vous la voix étudiante dans les décisions de l'université? On voit bien aujourd'hui dans le conseil participatif, nous sommes quatre étudiants, une dizaine de professeurs, l'assemblée de l'université, il y a 10 étudiants par rapport à tous les autres corps qui sont une cinquantaine. Est-ce que vous pensez que les étudiants ont assez leur mot à dire dans ce qu'est l'université?
Alors, les structures existent, je crois qu'elles sont assez démocratiques. La pratique montre que la voix étudiante n'est pas très forte. Alors, est-ce que c'est la faute des professeurs? Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi, c'est quelque chose, encore une fois, que c'est une initiative qui doit venir plus du corps étudiantin. Mais c'est vrai qu'au conseil participatif, on a peu de demandes ou de propositions ou de contestations qui viennent du corps étudiant. D'une certaine façon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les étudiants sont relativement satisfaits de la faculté, et j'en suis ravi. D'un autre côté, c'est un peu dommage que ces structures qui existent ne soient pas plus utilisées par le corps étudiant pour faire des propositions, le cas échéant, pour faire parfois certaines critiques, ce ne sont pas forcément des critiques ad nominem, mais des critiques plus générales sur la façon dont la faculté est gérée. Donc voilà, les structures existent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse d'autre que de vous offrir les structures utiles pour vous? On ne va pas ensuite vous forcer à parler.
Non, du tout, du tout. Il y a plein d'idées et de choses qui peuvent être faites.
Un doyen à l'université de Neuchâtel qui commençait toujours les conseils participatifs par la phrase suivante: les personnes qui n'ont rien à dire sont priées de ne pas le confirmer verbalement. C'était utile.
Et voilà qui est dit.
Je confirme que si les étudiants n'ont rien à dire, ils sont priés de ne pas le confirmer verbalement. Mais ça, c'est pas grave de ne rien avoir à dire. Souvent, c'est plutôt une bonne chose de ne rien avoir à dire. Ça m'arrive très souvent de ne rien avoir à dire et en général, je m'abstiens.
Très bien, c'est une bonne philosophie. Alors, dernière
question. Il y a des éléments que je vais mettre dans le cours de rhétorique. Je trouve que le silence est sous-estimé en rhétorique.
Très bien, voilà un point qui peut être rajouté. Alors, dernière question, qui est quand même assez large. Qu'aimeriez-vous changer d'abord au sein de la faculté? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer au sein de l'université?
Alors, vous me prenez vraiment de court. Qu'est-ce que j'aimerais changer au sein de la faculté?
Quelque chose pour vous qui n'irait pas nécessairement dans le bon sens ou quelque chose qui manquerait?
Alors écoutez, je trouve parfois le nombre d'étudiants difficile à gérer. Okay. Mais la question c'est qu'il n'y a pas de proposition qui suit, parce que ma proposition n'est pas de faire un numerus clausus à l'entrée ni de limiter le nombre des étudiants, mais très franchement comme professeur parfois je regrette d'avoir à gérer des masses, désolé de vous dire ça, des masses aussi importantes, notamment pour la gestion des examens. On n'a plus tellement la possibilité d'avoir un contact plus personnalisé entre professeurs et étudiants, en raison du nombre. Vous savez, quand vous êtes à votre 150e étudiant qui passe à un examen oral, bon, un côté un peu lassant, il faut bien le dire. Alors ça, c'est un problème que rencontrent toutes les universités suisses, en tout cas la plupart des universités suisses. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à peut-être d'autres formes d'examen qui tiennent compte de cet effet de masse. Ça, c'est ma principale critique, parce que sinon, ce qui concerne le statut professoral, il reste et a toujours été très agréable.
Pour reprendre ce sujet, la solution des QCM est de plus en plus employée, oui. Et de nombreux étudiants, ainsi que moi personnellement, se soulèvent contre, car elle est pour nous pas un bon outil pour tester les connaissances d'un étudiant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je suis d'une certaine façon d'accord avec vous, parce que j'ai jamais réussi aucun QCM. Je cherche toujours la quatrième solution qui n'est pas dans les trois qui me sont proposées. Et ça, c'est la première chose. Mais je trouve qu'un bon juriste doit toujours chercher la quatrième réponse, c'est-à-dire celle qui n'est pas dans les trois solutions proposées, ou soi-disant, il y en a une qui serait juste et les deux autres qui seraient fausses. Ou alors, un bon étudiant devrait toujours être capable de plaider le fait que les deux réponses fausses ne sont pas si fausses que ça, parce que c'est ça qu'on demande à un avocat. Donc, je rejoins votre critique du QCM. Mais en même temps, il y a un côté décourageant à corriger 500 copies, c'est aussi simple que ça. Et mettez-vous à la place des assistants, qui sera peut-être la vôtre dans quelques temps. C'est quand même très long, très fastidieux, très frustrant de corriger autant de copies. Et évidemment, le caractère automatique de la correction d'un QCM a son intérêt. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans pas mal d'universités. Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre. De temps en temps, un QCM permet de valider l'acquisition de connaissances brutes, pas tellement d'une intelligence quelconque, mais de connaissances brutes, mais ça fait aussi partie des études. Mais si l'examen n'est qu'un QCM, je le trouve un peu réducteur par rapport à des études universitaires.
C'est très bien ce que vous faites remarquer, car on voit que dans les tendances, les premières années du bachelor comportent beaucoup de QCM,
oui,
et lorsque le nombre diminue, et même au master, le QCM n'existe tout simplement plus.
Oui, bien entendu.
Donc voilà, merci beaucoup professeur de nous avoir accordé un petit peu de votre temps.
C'était un plaisir.
Est-ce que vous voulez faire un petit dernier mot de la fin?
Oui, je suis très heureux d'avoir en tout cas maintenant au moins un contact avec l'AED.
Ah, ben très bien, et on vous remercie.
Je vais pas le dire la prochaine fois.
Bonne journée tout le monde.